fait des petits portraits aussi.
On a beau faire ce travail de révélation, ça n'est pas entendu. Il y a un déni, toujours. Il y a effectivement un écran.
Quelques portraits subjectifs, quoi. Enfin,
Moi, je comprends que
les gens tels que je les ai vus en les rencontrant.
Que les journalistes, à un moment, disent « Ah bah oui, ça continue ». C'est vrai que c'est côté lancinant.
Vincent Girard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, praticien hospitalier, anthropologue.
J'ai un master d'anthropologie, mais je ne suis pas anthropologue. Anthropologue, c'est un métier, moi je ne fais pas d'anthropologie.
Mais un parcours quand même qui a croisé cette, cette discipline.
Voilà, j'ai croisé cette discipline, oui, de plein de manières différentes, mais je ne suis pas anthropologue.
En attendant, aujourd'hui, vous êtes coordonnateur d'une équipe psychiatrique qui travaille essentiellement dans la rue et s'adresse par priorité aux précaires. Alors peut-être quelques mots sur votre parcours, tout d'abord, je crois une expérience d'études aux États-Unis à l'université de Yale, et puis un moment, un choix de vous destiner, non pas à une pratique hospitalière classique, non pas à ouvrir un cabinet, mais plutôt à vous adresser aux précaires. Est-ce que c'est une rupture pour vous, ce choix ?
Pour moi, non, c'est au contraire, ça m'a permis de continuer à faire mon métier, parce que j'avais du mal à... Enfin, j'avais envisagé d'arrêter ce métier-là, pour plein de raisons, et cette façon de travailler principalement dans la rue, sans bureau, dans un endroit où le cadre est plus souple et reste à définir, m'a permis de trouver ma place en fait. Donc c'est plutôt au contraire une absence de rupture et une continuité avec ce que j'avais commencé. C'est des études longues hein, et j'étais comme je le disais presque prêt à abandonner quand j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de cette façon de travailler. À la fois, il y a la question du travail dans la rue, puis à la fois, il y a la question des soins et des stratégies de soins orientées autour du rétablissement et une vision beaucoup plus positive et optimiste de ce que ça peut être l'expérience de ce qu'on appelle la maladie mentale, d'une part, et d'autre part, comment les professionnels du soin peuvent avoir une position un peu moins toute puissante et plus d'accompagnement de ce que dit de ce que m'a souligné un jour une personne que j'aime beaucoup qui me disait les thérapeutes, ça veut dire second au combat. Et j'ai l'impression que parfois les thérapeutes se croient les premiers alors qu'ils ne sont que les seconds, quoi. C'est pas eux qui gagnent contre la maladie, c'est bien les gens qui sont directement concernés.
Vous êtes l'auteur, ou plutôt le co-auteur, d'un rapport, je crois, avec les docteurs Esté, Kahandi et Chauvin, un rapport destiné à élaborer des propositions pour améliorer les parcours de vie et de soins des sans-abri. On va revenir peut-être tout à l'heure sur les 5 recommandations que le rapport préconise, mais peut-être tout d'abord sur la nécessité, sans doute impérieuse, d'améliorer les politiques de santé. Les SDF, c'est ou c'était la patate chaude de la santé publique, ce dont personne ne veut s'occuper.
Alors oui, effectivement, la question des inégalités de santé en France et la question plus globale de la santé publique est une terre en jachère, c'est-à-dire que il y a eu 2 lois de santé publique votées en 100 ans en France, la dernière a été votée en 2004, et on a une faible culture de l'évaluation, et donc les dispositifs se créent, mais on ne sait jamais exactement avec certitude si oui ou non ils fonctionnent, et qu'est-ce qui fonctionne, et qu'est-ce qu'on peut reproduire, et qu'est-ce qu'on doit supprimer. Et il y a une sorte de déconnexion entre la production de savoir et les besoins en termes social, notamment pour accompagner les prises de décision des acteurs comme des décideurs politiques. Et donc le rapport, ce qu'il met en lumière, c'est d'un côté d'énormes investissements en termes de santé, en termes d'aide aux personnes sans-abri. Il faut savoir qu'en France, on dépense entre 3 et 5 milliards, encore une fois sur une évaluation très à la louche, mais... Ce terme de « à la louche » est très gênant parce qu'en France, en fait, on ne sait rien avec certitude. Par exemple, on a compté une fois le nombre de sans-abri en 2001 sur une semaine, non extrapolés à un an, alors que tous les budgets des structures sont faits sur un an. Donc c'est des chiffres qui ne sont pas aidants. Il faut savoir que dans d'autres pays, les personnes sans-abri sont comptées chaque année de façon scientifique, avec des méthodologies précises qui permettent de vérifier si oui ou non une politique mise en place fonctionne. Qu'en France, malheureusement, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. La communauté européenne a demandé à la France de compter les personnes sans-abri. Donc je ne sais pas si l'INSEE va enfin intégrer ce comptage dans sa mission. Mais ce sur quoi appuie le rapport, c'est cette difficulté à savoir en fait ce que nous produisons en termes de soins comme en tête d'accompagnement social et à la réinsertion sociale.
Est-ce que selon vous, c'est par manque de volonté politique, parce que vous le dites, on donne de l'argent, mais il manque en même temps cette volonté de vouloir mener une politique cohérente, de l'analyser, de l'évaluer. C'est un défaut de volonté politique pour vous ?
Non, je dirais que plus que c'est une question de culture, une culture partagée des acteurs de terrain, des soignants et des politiques. Voilà, c'est une responsabilité partagée. Je pense que vu la situation économique et la crise et cette nécessité qui fait jour de plus en plus de façon évidente qu'on va être obligé de diminuer nos consommations, notre manière de vivre va changer. Les gens se déplacent en vélo, ils prennent des douches froides, ils mangent des aliments crus. Enfin voilà, il y a des démarches très claires de vision sur une décroissance, mais ça va être pareil pour les soins et pour l'accompagnement social. Il va falloir voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, et non plus sans arrêt demander plus, sans savoir ce qui marche ou ce qui marche pas dans ce qu'on fait, quoi. Moi, j'ai eu l'impression, quand je suis arrivé en médecine, quand j'ai vu mes professeurs parler, que c'était un peu des enfants gâtés, quoi. Mais j'ai cette impression aussi de la génération des 30 glorieuses. Moi, je dis toujours, nous, on a vécu les 30 miséreuses, quoi. Et donc, cette vision de la croissance va continuer, il y a des poches de pauvreté qui vont se résorber, nous, on n'a pas connu ça. Nous, on a connu que des poches de pauvreté qui s'agrandissent. Et Marseille, c'est la ville la plus pauvre de France, avec un hypercentre, avec 30% de la population en dessous du seuil de pauvreté, énormément de personnes en situation irrégulière qui rajoutent encore de la pauvreté. Et voilà, on est en face de l'Afrique, donc on est en contact avec une réalité mondiale, beaucoup plus que les autres villes. Et je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est un vrai laboratoire social d'expérimentation. Et il y a énormément de dynamisme. Ces inégalités, cette misère, ça crée aussi de l'énergie, du dynamisme. Ça attire des gens qui sont probablement peut-être plus engagés, parce que pour décider de vivre dans le centre et dans l'hypercentre de Marseille, il faut, quand on est un bourgeois, il faut le vouloir, quoi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Et ceux qui restent, généralement, c'est parce qu'ils sont engagés dans des luttes. Après, la majorité des gens qui sont pauvres, ils n'ont pas le choix. Mais ils préfèrent vivre dans l'hypercentre que dans les quartiers nord. C'est déjà une vie moins stigmatisée, où il y a plus d'accès à des ressources. Le prix des fruits et légumes à Noailles, c'est juste incroyable, quoi. Je veux dire, c'est un accès à des aliments frais à moindre coût. On travaille avec la police de Noailles, de temps en temps on discute avec eux sur les situations complexes, ils nous expliquent qu'il y a entre 400 000 et 600 000 personnes par jour qui traversent Noailles. Voilà, donc c'est le cœur, c'est le poumon de cette ville, et c'est vrai que c'est un poumon qui est, enfin pour moi c'est un exemple de mondialisation, quoi. C'est le monde entier se donne rendez-vous à Noailles, quoi. Et la question aujourd'hui, c'est comment on répond à cette situation très singulière où on a dans les quartiers sud des gens qui gagnent 3, 4, 5, 6 000 euros et dans les quartiers nord et centre des gens qui sont à 200, 300 euros, quoi.
Parlons un petit peu de ce que ce rapport préconisait. Le premier élément que vous avez souhaité voir évoluer, c'est de décloisonner les politiques sanitaires. Elles étaient ou elles sont encore cloisonnées ?
Il y a plusieurs cloisonnements.
Vincent Girard.
Le premier cloisonnement, moi, qui me concerne, puisque je travaille dans la psychiatrie, c'est le cloisonnement entre les addictions et l'alcoolologie et la psychiatrie. alors qu'il paraît évident au vu des recherches de ces 30 dernières années qu'il y a des liens très forts entre les problèmes addictifs et les problèmes psychiatriques. Qu'on a la chance à Marseille d'avoir eu un professeur qui est encore en activité, qui est le professeur Lançon, qui a amené ce décloisonnement de façon très très forte au sein de la psychiatrie marseillaise, puisqu'il a ouvert le premier centre méthadone universitaire de France. Que là, il essaye avec le professeur Nicolas d'ouvrir une salle d'injection en association et en partenariat avec les autres structures basse-œil du centre-ville comme le bus 3132 et à Sud notamment. Et que du coup, c'est vrai que cette culture de la réduction des risques qui vient du sida et qui a permis au champ des addictions de se renouveler complètement en termes de stratégie avec une approche beaucoup plus citoyenne, moins morale et plus pragmatique. J'allais dire que ces trois critères, pragmatisme, éviter l'approche morale et avoir une vision citoyenne, c'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être responsables et on utilise leurs compétences au lieu de penser qu'ils n'ont pas de compétences et qu'ils ne possèdent pas une partie de la solution aux problèmes qu'ils rencontrent. Ça, c'est central dans la nouvelle santé publique et ce que nous a apporté le sida. Et ce savoir-faire, malheureusement, est resté cloisonné au monde du sida. Il n'a pas diffusé en France, dans d'autres spécialités. Donc les services d'infectieux qui travaillent avec les associations sont obligés de s'y mettre, mais il y a des conflits, c'est compliqué, c'est difficile, mais ils s'y mettent. En psychiatrie, un petit peu, mais ça reste très... À Marseille, oui, mais ça reste une exception. Et globalement, les politiques publiques sont très éloignées de ce genre de préoccupations, mais aussi parce que les acteurs de terrain ne s'y intéressent pas et en dehors du champ cité, quoi.
Parmi l'ensemble des sans-abri que vous rencontrez à Marseille, est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer combien d'entre eux, finalement, ont un problème psychologique ou psychiatrique sévère ?
Alors, à Marseille, il y a plusieurs problèmes pour évaluer la situation sanitaire des personnes sans-abri. Déjà, il y a le comptage même des personnes sans-abri. Il faut savoir qu'à Marseille, comme dans toutes les villes de France, il n'y a pas de comptage des personnes sans-abri. Que moi, quand je suis arrivé en 2004, au retour des États-Unis, quand je suis allé voir la mairie pour la première fois, un médecin de santé publique de la mairie m'a dit « Écoute, Vincent, je pense qu'il y a à peu près 1000 SDF sur Marseille. Moi, j'étais allé à... Donc, j'avais vécu un an aux États-Unis, j'avais vu le comptage fait dans la ville où j'habitais. C'était une ville de 100 000 habitants, New Haven, une petite ville entre New York et Boston, donc c'est une ville plutôt riche, quoi. Ils en avaient compté 3 000. Et je disais, mais sur une ville de 100 000 aux États-Unis, il y en a 3 000. Et à Marseille, où il y a 800 000 habitants, il n'y en a que 1 000, alors que c'est une ville bien plus pauvre que New Haven. J'ai dit, non, c'est pas possible. Donc je suis allé voir quand même les structures d'hébergement comme Fort Bain et la Madragueville. Et déjà, en croisant les fichiers, on était déjà à presque 4 000. Quoi. Et donc moi, à l'époque, dans un rapport, j'avais dit une évaluation à la louche, 5 à 10 000. Quoi. Mais encore une fois, c'est une question aussi de définition, c'est-à-dire que la définition scientifique de sans-abri, c'est vraiment une personne qui se trouve en situation d'itinérance au moins une fois dans l'année, plus de 7 jours, enfin voilà, il y a des définitions en tout cas qui commencent à faire consensus au niveau européen et même au niveau scientifique. Donc je pense qu'il faut les utiliser parce que ça nous permet de comparer et du coup de comparer aussi les politiques et les stratégies qui sont mises en place. Et aujourd'hui à Marseille, là sur un comptage grossier qu'ils ont fait... juste en prenant les phylactiques des différentes structures, ils sont à 12 ou 13 000. Mais encore une fois, les questions qui sont posées ne sont pas assez précises pour savoir en fait si les personnes qui sont comptées sont toutes sans abri. Donc ça nécessiterait de toute façon un travail de comptage déjà des personnes sans abri. Donc ça, c'est le premier point. Avec une méthodologie qu'on maîtrise et qu'on connaît. Donc c'est pas un problème méthodologique, c'est un problème effectivement là du coup de volonté politique, mais qui semble émerger au niveau de la mairie en tout cas. Mais sauf que c'est pas sa mission première. Il y a l'Observatoire régional de santé qui pourrait le faire, mais il faudrait qu'il soit mandaté. Il y a la région qui peut le faire, il y a le département qui peut le faire, et puis il y a l'État aussi qui peut décider de le faire. En tout cas, on a les compétences à Marseille pour le faire. Les compétences et une certaine volonté des acteurs. Le deuxième point, c'est maintenant, parmi cette population de personnes sans-abri, combien ont des troubles psychiatriques sévères ? Ça, on le sait, les différentes études épidémiologiques disent qu'il y a à peu près 30% de personnes sans-abri qui ont des troubles psychiatriques sévères. Il se trouve que ces personnes-là sont souvent celles qui restent longtemps à la rue, parmi les personnes qui restent longtemps à la rue, c'est-à-dire 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans, une grande majorité ont des troubles psychiatriques sévères. Schizophrénie, bipolarité, troubles dépressifs sévères, et souvent des comorbidités addictives, hein, des problèmes d'alcool principalement, et après des problèmes somatiques secondaires ou primaires, ou ajoutés, qui font que c'est des personnes qui ont une espérance de vie très très réduite, hein, entre 30, 35, 40, 45 ans, quoi. Voilà. Alors pareil sur la mortalité des personnes sans abri qui ont des troubles psychiatriques sévères, aucune donnée en France. On a fait une petite étude, nous, en 2006, rétrospective sur 45 cas à Marseille. On est tombé sur un chiffre de 42 ans, mais voilà, c'est pas très robuste en termes scientifiques. Et là, il y a un thésard de psychiatrie qui bosse dessus, donc on va avoir des données un peu plus robustes. Mais par exemple, au Danemark, ils ont fait une étude, ils ont tous leurs patients SDF, toutes les données sont informatisées, donc là, on a des vraies données. Mais c'est le Danemark, mais bon voilà, grosso modo c'est des gens qui ont une espérance de vie qui correspond à un pays du quart monde, quoi.
Élément qui était préconisé dans ce rapport et qui est sans doute à voir évoluer, c'est la coordination du travail des médecins, des psychiatres et des travailleurs sociaux. C'est des mondes qui d'habitude ne travaillent pas ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils ne parlent pas la même langue, parce qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques, parce qu'ils ne sont pas sur le même terrain.
Alors, d'une part, il y a au moins deux explications différentes. Il y a l'explication du haut et l'explication du bas.
Vincent Girard.
En bas, sur le terrain, effectivement, c'est des cultures différentes, hein, la culture psychiatrique et la culture du travail social. Je pense que dans le travail social, il y a eu très longtemps une influence dans la formation autour des questions de santé mentale de la psychanalyse qui est très peu opérationnelle quand il s'agit de prendre en compte la dimension sociale et politique. La psychanalyse, la grande reproche qu'on peut lui faire d'un point de vue politique, c'est justement qu'elle a dépolitisé la question de la maladie mentale en préconisant des explications psychologiques, voire familiales. Se rappeler les mamans de schizophrènes, les mamans d'autistes qui seraient responsables des troubles. Et alors que les études aujourd'hui parlent de facteurs comme l'échec social répété. L'échec social répété, c'est quand même pas la même dimension politique que c'est la faute à maman, quoi. Et donc nous, en tout cas, les questions, ce vers quoi s'oriente la recherche et ce que nous dit la recherche des causes de la maladie mentale sévère, comme la schizophrénie qui est un modèle, c'est qu'il y a une vulnérabilité génétique sur lequel vient un contexte adversif, difficile, complexe, fait de violence assez importante, souvent amène les gens à déclencher la maladie. Et donc on est très très loin de « c'est la faute à maman ». Et donc cette façon, cette culture-là, elle était partagée à un moment donné par la psychiatrie et les travailleurs sociaux en France. Aujourd'hui, la psychiatrie n'est plus du tout la nouvelle psychiatrie. Je ne parle pas des psychiatres qui ont 55, 60 ans, qui sont encore dans leur culture de la psychanalyse, parce qu'ils ont été formés à cette époque-là. Mais les nouvelles générations sont sur des concepts et des approches scientifiques. La psychiatrie a énormément progressé. Elle a produit la psychiatrie mondiale, hein, pas la psychiatrie française. Elle a énormément progressé. C'est vrai que la psychiatrie française est un peu en deçà et un peu en retard sur certains points. Mais nous, à Marseille, on est dans un pôle universitaire et du coup, on est imprégné quand même des... Dans mon équipe, il y a trois chercheurs qui travaillent. Moi, je suis en thèse. Il y en a une autre qui est chercheur senior. Enfin, voilà, on est imprégné aussi de culture scientifique. Alors, ça ne veut pas dire épidémiologique forcément uniquement. Il y a une anthropologue temps plein dans mon équipe. Voilà, il y a des cultures scientifiques différentes. Mais en tout cas, on est assez éloigné du modèle psychanalytique. C'est une des raisons qui fait que le social et la psychiatrie ont du mal à se parler. Et l'autre raison, elle est liée aux sources de financement et à l'organisation de l'État en tuyau d'orgue. C'est-à-dire qu'il y a très peu de connexion entre les décideurs qui s'occupent des affaires sociales et les décideurs qui s'occupent des affaires médicales. On peut espérer, avec ce nouveau chapeau ministériel, une meilleure coordination. Mais ceci dit, les ARS sont venus quand même mettre à mal ce qui était c'est avant des gens qui travaillent dans les mêmes bureaux. Donc on va voir comment ça va se développer. Ce qui est certain aussi, c'est que les ARS ont mis comme priorité la question des inégalités de santé. Donc on va voir comment, en pratique, ils vont se saisir de ces questions-là et qu'est-ce qu'ils vont faire pour rendre effectif cette priorité.
Est-ce que tous les sans-abri qui sont atteints de troubles mentaux peuvent avoir accès à des soins, ou bien est-ce que seuls ceux qui ont les pathologies les plus sévères, finalement, psychotiques, schizophrènes, vraiment délirants, peuvent finalement être pris en compte, être hospitalisés, et au fond en négligeant quelque part ceux dont les pathologies sont certes un peu moins lourdes, mais qui peuvent le devenir justement et devenir aggravées par le séjour dans la rue?
En tout cas, mon équipe, oui. Mon équipe fonctionne comme ça. Mon équipe travaille qu'avec des gens qui ont des troubles psychiatriques sévères. Mais c'est des questions, qu'on se pose parce qu'on est dans la précarité et dans le manque de moyens. Donc c'est un peu les femmes et les enfants d'abord, quoi. Et aussi parce que les troubles psychiatriques sévères, c'est vraiment là où la psychiatrie a une compétence. Moi, je suis psychiatre, donc je vais forcément m'occuper. En plus, je suis psychiatre dépendant d'un service universitaire. Donc forcément, la mission d'une équipe qui dépend d'un service universitaire, c'est de s'occuper des gens qui ont les pathologies plus lourdes. Ça, c'est l'organisation du système de soins en France. Maintenant, les soins les plus, on va dire, plus légers, psychothérapie, traitement juste... antidépresseurs, hypnotiques, c'est des choses que les médecins généralistes peuvent faire. Dans la majorité des pays d'Europe, c'est les médecins généralistes qui le font. Et que donc, c'est une autre mission et un autre travail, mais qui est effectivement... qui est fait un peu dans les PASS, voilà, les permanences d'accès aux soins, qui peut être fait dans les accueils de jour avec une infirmière, un médecin généraliste. Mais c'est des stratégies de soins qui sont plus faciles à mettre en place. Voilà. Et que du coup, je pense qu'en termes de santé publique, effectivement, c'est important d'y penser, c'est important de les développer, mais elles ne correspondent pas forcément à la psychiatrie, à la mission de la psychiatrie. Elles peuvent très bien être mises en place et déléguées par des médecins généralistes, en articulation avec les psychiatres, quand eux rencontrent des difficultés. Mais en première ligne, à mon avis, pour ces questions de troubles psychiatriques moins sévères, les médecins généralistes sont beaucoup plus opérants, d'autant plus que souvent, en fait, la porte d'entrée, elle va être somatique. C'est-à-dire que les gens vont somatiser ou vont avoir une maladie chronique. Il faut savoir qu'il y a une corrélation très forte entre maladie somatique, chronique et dépression. Et que du coup, les médecins généralistes sont vachement, moi, je trouve, efficaces là-dedans. C'est pour ça que, d'ailleurs, nous, on en a un dans notre équipe.
Vous évoquiez tout à l'heure une nouvelle psychiatrie, ou une nouvelle approche aujourd'hui de la psychiatrie, renouvelée. Est-ce que la formation des médecins psychiatres est aussi renouvelée? Et est-ce que notamment elle prend en compte la diversité culturelle des patients? En effet, parmi ces sans-abri, nombre sont ceux qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, avec une autre forme de raisonnement que le nôtre. Et est-ce que les psychiatres seraient les bienvenus d'être aujourd'hui, d'intégrer ces différences culturelles dans leur pratique de soins? Alors, ce qu'on appelle l'ethnopsychiatrie.
Alors pour moi, la priorité de la formation des psychiatres, c'est d'intégrer les différences sociales. Et ça passe par le fait que certains médecins, enfin que certaines personnes issues du milieu défavorisé puissent être formées à la médecine. Donc c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine, plus que d'autres concours, permet de recruter des gens qui sont issus de milieux défavorisés. Parce que c'est un concours où il n'y a pas d'oral, et c'est anonyme. Et donc il est beaucoup plus démocratique et permet beaucoup plus l'accès à des personnes issues des quartiers, issues des minorités ethniques. Et la première réponse qu'on peut apporter aux différences ethniques, c'est de former des médecins issus de ces minorités. Donc ça, au lieu de former des bons blancs riches et bourgeois à comprendre des primo-arrivants ou des secondes générations ou des troisièmes générations, autant former des médecins primo-arrivants de deuxième ou de troisième génération. C'est en train d'être fait, mais pour moi, de ce que je vois, c'est pas encore suffisant. Donc peut-être qu'il faut qu'on ait une réflexion cette question-là, mais du coup, ça renvoie à une question plus globale de est-ce qu'on est dans une société où on peut encore permettre à des gens de passer d'une classe sociale à l'autre. Hein. Ça, c'est une question, à mon avis, structurelle de fond de toutes les sociétés riches et qui traverse d'autant plus fortement la France qu'elle a eu une prétention et une volonté affichée d'être un endroit où il y a des universaux et tout le monde a les mêmes droits. Au jour d'aujourd'hui, dans les différentes promotions d'internes en psychiatrie que je connais, je ne connais pas une personne d'origine maghrébine, quoi, à Marseille. À Marseille, quoi. Voilà, donc c'est... Et parmi mes collègues, j'ai un collègue qui travaille à Édouard Toulouse en pédopsie et qui est originaire des quartiers nord, quoi. Donc on est quand même très très loin du motel républicain qu'on prétend être, quoi.
Si vous voulez bien, des échelles territoriales, l'État, les départements, conseil général qui a de nombreuses missions en matière sociale, les villes, en matière de politique publique, comment est-ce qu'elle s'articule selon vous, si elle s'articule? Est-ce qu'il y a une grande diversité finalement, selon la ville dans laquelle on est, à Marseille mieux, à Lyon moins bien, ou à Paris encore mieux, ou bien est-ce que cette inégalité finalement, elle est rabotée par des politiques, par une politique d'État qui vient quand même lisser et apporter une politique de santé cohérente sur l'ensemble du territoire? Vincent Girard.
Moi, je suis mal placé pour répondre à cette question, parce qu'en fait, j'ai obtenu tout ce que je demandais de l'État. Mais mon expérience, elle n'est pas représentative de ce qui se passe en général. Si j'essaye de m'extraire de mon cas particulier, je dirais qu'il y a effectivement des progrès à faire en termes de logique territoriale. A priori, les ARS, en tout cas en termes de politique de santé, elles ont été faites pour ça. Maintenant, j'ai l'impression que les moyens structurels et de gouvernance sont limités et qu'on est encore une fois confronté à un problème de culture. Voilà, c'est-à-dire que chacun continue à vouloir faire ce qu'il fait. Il y a une grande difficulté des acteurs à se dire peut-être que je pourrais faire autrement, s'intéresser aux questions des inégalités. Il y a énormément de services où ça ne se fait pas. Il y a des services où par contre ça se fait de façon tout à fait logique et naturelle, et je pense principalement à l'hôpital Nord. Moi je suis un étudiant de l'hôpital Nord, j'ai été formé dans cet hôpital, et c'est vrai que dans cet hôpital la question du respect de la différence, de la culture des personnes qu'on soigne, elle a été particulièrement vite traitée, parce que sinon on n'aurait pas pu soigner les gens. Et si les médecins restent la plupart des médecins blancs, par contre, les aides-soignants, les infirmiers, eux, sont issus des minorités. Et ça crée des ponts et des liens. Et ça a permis de faire une médecine et de produire une médecine adaptée aux besoins des personnes. Moi, en ce qui concerne personnellement l'ethnopsychiatrie telle qu'elle est pratiquée par Toby Nathan, pour moi, c'est faire fi du... Et c'est oublier que les gens ont un projet... migratoires quand ils viennent en France, c'est qu'ils veulent pas être traités comme devenir français. Voilà, la plupart du temps ils sont attachés à ces valeurs de démocratie, ils quittent un pays où il y a une dictature, où il n'y a pas d'égalité, où il n'y a pas de justice sociale, et quand ils viennent chercher la France, ils veulent être soignés par aussi un médecin et une médecine occidentale. Ils viennent chercher l'Occident, ils viennent pas juste chercher de l'argent. Il y a derrière un projet, certes, un besoin de plus de confort économique, mais il y a aussi un attachement à des valeurs entre guillemets dites démocratiques, quoi. Donc je pense qu'il faut faire attention de pas proposer à des gens qui sont sur un projet migratoire des soins du pays. Alors qu'eux, en fait, ils ne viennent pas chercher des soins du pays, quoi. Par contre, ils ont besoin aussi d'être compris et respectés dans leurs différences. Donc c'est toute cette nuance qu'il faut avoir dans l'approche de la culture de l'autre, quoi.
Pour revenir un petit peu aux échelles territoriales, est-ce qu'il vous semble, dans l'expérience que vous en avez, que Marseille est une ville spécifique par rapport à l'ensemble du territoire français dans les politiques de soins et politiques sociales à l'égard des sans-abri ?
Déjà, Marseille est une ville spécifique en termes social, économique et culturel. Ça, c'est très très clair. Aujourd'hui, suite au rapport, on a mis en place un programme expérimental pilote sur 4 villes, Toulouse, Lille, Marseille et depuis peu Paris. Donc on va avoir des données. Donc c'est un programme expérimental qui offre de l'hébergement, c'est un essai randomisé qui offre de l'hébergement à des personnes sans chez soi, qui ont des troubles psychiatriques sévères. Donc vraiment c'est sur ces questions-là. Et effectivement, chaque ville a une culture particulière. Mais ce qui ressort de la comparaison des 3 premières villes, c'est que Marseille, les gens qui accèdent au programme à Marseille sont des gens particulièrement précaires et dans des situations de santé souvent plus graves que les autres villes. Donc oui, il y a une spécificité déjà des personnes sans-abri et de la population sans-abri qui a des troubles psychiatriques à Marseille. Donc ça, c'est le premier point. Et de fait, face à une population spécifique avec des besoins spécifiques, c'est développer une offre de soins spécifiques. Marseille est une ville aussi où la réduction des risques a énormément été développée pour des raisons historiques. Marseille a produit de l'héroïne dans les années 60. Il y a eu des consommateurs d'héroïne très tôt. Il y a eu une culture de l'injection qui existe toujours encore aujourd'hui. Donc il y a eu une épidémie de sida très forte, hépatite C aujourd'hui. Et que donc du coup, il y a un ensemble d'acteurs sur le terrain qui ont partagé cette expérience de l'offre de soins par la réduction des risques, les travailleurs pairs, la médiation, le travail de rue de proximité, la sensibilisation des voisins, des politiques publiques. Il y a une cellule sida-toxicomanie au sein de la mairie qui a été montée en 1995 par Mattei. Donc il y a une culture politique locale aussi. La mairie a toujours été très investie sur les questions de santé, alors que ce n'est pas sa mission première. Elle n'a pas de mandat spécifique là-dessus. Voilà, donc je pense qu'on est dans une configuration, une culture très particulière à Marseille.
Parlons des lieux d'accueil. Je crois que pour vous, un élément déterminant, c'est ce qu'on appelle en anglais le housing first, c'est-à-dire d'abord donner un espace, donner un accueil aux gens, et puis à partir de là, commencer à développer une politique de santé à la fois et d'insertion, de réinsertion. Pour vous, la priorité, c'est ça d'abord?
Oui, effectivement.
Vincent Girard.
Je pense que une grosse majorité des personnes de la rue, ce qu'elles veulent, c'est vivre comme tout le monde. Et que la culture du foyer ou même du CHRS, c'est une culture qui vient historiquement des asiles et d'une vision assez ancienne de comment gérer la pauvreté en la concentrant et en l'excluant. Et que cette vision-là, elle est très éloignée du projet démocratique et citoyen et qu'on doit petit à petit repenser les choses autrement. D'autant plus que c'est ce que demandent les personnes et des structures... comme la Madragueville, et je ne parle pas des dysfonctionnements, politiques, structurels, organisationnels, et toutes les magouilles qui ont eu lieu dans ce lieu durant des années, mais même de l'organisation du lieu même, comment il a été pensé. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans cet endroit, mais c'est un endroit qui est tout petit, où il y a à peu près 300 personnes qui sont accueillies dans des algéco, sur des lits superposés, des chambres à 6, des draps en papier... tous les jours je rencontre des gens dans la rue qui me disent je ne vais pas à la Madragueville parce que je me suis fait frapper, parce que j'attrape des poux, parce que j'attrape des puces, parce que je me suis fait violer, enfin voilà. Donc il y a des viols, des gens qui se font frapper, il y a une structurellement c'est pas un endroit qui peut fonctionner voilà. Et donc je pense qu'à moyen terme, là, les pouvoirs publics ont compris qu'il fallait le fermer. Je pense que c'est ce pourquoi l'armée du salut a repris la structure depuis peu et qu'elle a véritablement ce projet de démembrer la structure pour en faire des microstructures. Maintenant, il va falloir aussi une volonté forte des locales, de la mairie, qui pour le moment s'est énormément investi financièrement sur le lieu, mais aussi dans une logique qui était beaucoup plus d'affichage politique que de résolution du problème. Et le SAMU social marseillais, Emmanuel, il en a des boutons quand il en entend parler, quoi. Lui qui a créé une structure à Paris qui est déjà énormément critiquée, hein. Le SAMU social Paris est énormément critiqué. On parle de nettoyeurs de rue, Mais au moins, il y a une vision professionnelle, c'est-à-dire des intervenants qui sont formés, des infirmières, des médecins, des structures d'accueil de petites unités, des maisons relais. Enfin, le SAMU social de Paris, c'est pensé, quoi. Voilà, c'est pensé. Et même si moi, je ne suis pas d'accord avec ce système-là, il a été à un moment donné quelque chose d'innovant, quoi. Le SAMU social de Marseille, c'est des anciens cantonniers, donc des poubelliers qui ont des problèmes de santé ou qui sont syndiqués ou qui ont souvent d'ailleurs qui sont du syndicat FO hein, et qui ont été mis là pour ramasser du SDF. Donc c'est quand même symboliquement le message, il est très 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 négatif et très toxique, quoi. Et avec toute la bonne volonté que peuvent avoir ces personnes, elles n'ont pas les compétences pour faire un métier qui est très dur. Encore une fois, je critique pas les personnes qui font ce travail-là. Je critique l'absence de réflexion politique de la mairie autour de ces questions-là. Et ça fait de très nombreuses années que ça dure. Et c'était pire avant. C'est-à-dire que le nouveau directeur du SAMU social, avec tous les défauts qu'il a, quand il est arrivé, les camions ne tournaient plus, les gens avaient des postes fictifs, il y avait un pizzaïole, un boulanger. L'ancien élu Kerkarian avait détourné de l'argent pour une association en Arménie. Enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, entre le SAMU social qui recrute des anciens cantonniers, mais avec la Madraville, c'est pareil. Des relations opaques où on ne peut pas avoir un renseignement, on ne comprend pas quand on intervient sur le lieu. On nous demande de. Enfin, nous, on a été interpellés et par le SAMU social et par la Madraville pour des interventions. Et il ne faisait jamais ce qu'il disait. Et il ne nous demandait jamais d'intervenir pour des raisons qu'en fait qui étaient toujours les mêmes. C'était qu'il fallait qu'on nettoie un endroit, quoi. Et il voulait que nous, on les accompagne à nettoyer un endroit. Quand nous, on leur expliquait que nous, on créait du lien, qu'on accompagnait ces gens sur un projet de vie et qu'on ne nettoyait pas la ville, quoi. On n'était pas des nettoyeurs. Et donc, il y a cette culture et cette commande de la ville où on peut imaginer à un moment donné, et c'est le grand fantasme de Gaudin, c'est Marseille qui va devenir riche parce qu'on va enlever les pauvres du centre-ville. Mais ce n'est pas comme ça que ça c'est, ben, pour moi, c'est une antithèse du projet démocratique. Voilà. Et là, je ne comprends pas les valeurs chrétiennes qu'il peut défendre. Parce que c'est l'antithèse d'une démarche humaine. Quoi. Voilà.
Vincent Girard, pour conclure cet entretien, je vous proposerais volontiers de nous dire qu'est-ce qu'il vous semble aujourd'hui prioritaire dans ce combat aux côtés des sans-abri, des SDF, pour un meilleur projet de vie, un meilleur projet de soins pour eux. Qu'est-ce qui serait aujourd'hui les grandes priorités, les priorités les plus importantes à Marseille notamment, et peut-être au-delà de Marseille d'une manière nationale? Mais commençons par Marseille.
Déjà, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience politique au niveau local, qu'il y a des méthodes et des façons de travailler qui peuvent, à budget constant, qui peuvent améliorer la situation. Et aujourd'hui, il y a un problème structurel. Il y a le SAMU social et la Madraville d'un côté et les autres acteurs de terrain de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une scission. Bourga, il peut raconter ce qu'il veut. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais pu le rencontrer. Et il n'est jamais venu voir ce qu'on faisait. Et quand j'ai demandé au SAMU social il y a 4 ans, je les ai invités à une formation gratuite sur la santé mentale, ils m'ont dit oui, ils ne sont jamais venus. Il y a des formations gratuites de l'université pour les intervenants. Ça a toujours été lettre morte. Ils m'ont toujours dit oui, ils ne l'ont jamais fait. Donc je me suis déplacé au SAMU social, ils m'ont montré, j'ai discuté avec les intervenants, j'ai discuté avec son président. Et donc voilà, il y a des choses structurelles politiques, effectivement, au niveau local, qui peuvent être améliorées. Et c'est paradoxal, parce que sur les questions des addictions, la mairie est en avance. Et là, il y a un vrai clivage. C'est-à-dire que la mairie est en avance, elle est moderne, elle est source d'innovation, elle produit grâce à la cellule cytotoxicomanie, mais sur la précarité, elle est complètement en retard. Voilà. Et là, c'est un très bon exemple du clivage médico-social. Voilà. Après, Le combat, pour moi, c'est de réintroduire, enfin, utiliser les compétences qu'il y a au niveau local, notamment des universitaires, des chercheurs, en lien encore une fois avec les acteurs de terrain qui ont eux aussi une part d'explication, sans oublier, et jamais ça, il faut jamais l'oublier, les compétences qu'ont les gens, les compétences qu'ils ont, les gens de la rue, et le potentiel qu'ils ont. C'est comment on les aide à retrouver leurs capacités et comment on se sert de ça. Parce que c'est comme ça qu'on peut aussi, et à mon avis, c'est la condition nécessaire pour que les gens puissent sortir de la rue et retrouver une vie normale. Il y a quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé qui est c'est quoi les soins orientés autour du rétablissement et qu'est-ce que c'est que ces nouveaux soins psychiatriques en fait se développent dans les pays anglo-saxons aux États-Unis, au Canada, dans les pays d'Europe du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, depuis 20 ans, une approche dite de recovery, donc c'est on traduit ça par rétablissement, traduction insatisfaisante, mais bon, on n'a pas trouvé mieux. Et c'est une politique qui ressemble énormément au souci qu'ont les Français de l'universalité et de la question de la citoyenneté, mais sauf que c'est une réponse pragmatique, c'est-à-dire que la France a tendance à proposer à avoir des positions idéologiques, et je pense que structurellement, s'il y a quelque chose qu'on peut prendre des pays protestants, c'est ce côté pragmatique et dire ok, nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs, mais concrètement comment on fait pour y arriver. Et la force de la France, je pense la grande force de la France, c'est que c'est un État socialiste. Il y a un État très fort, il y a cette culture et cette volonté de rester un État fort. Économiquement, on continue à survivre avec ce modèle-là. Et du coup, moi je pense qu'on pourrait utiliser le pragmatisme protestant pour pouvoir trouver des solutions qui sont à la fois politiques, mais aussi techniques. Et donc c'est ça moi qui m'a séduit dans le modèle des soins orientés autour du rétablissement, c'est que d'abord c'est optimiste et ça permet de lutter de l'intérieur des conséquences sociales du traitement de la folie, parce que ça aussi c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais ce qui fait que les personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères meurent avec 25-30 ans d'espérance de vie en moins que la population générale, c'est pas seulement le fait de leur maladie, c'est du traitement social de cette maladie, c'est comment la société réagit. Et les soins orientés autour du rétablissement, c'est une vraie proposition stratégique et pragmatique qui essaye de répondre à ça. Je ne dis pas que c'est la réponse, mais je dis que c'est intéressant pour nous de regarder et de tester et d'évaluer comment nous, on peut éventuellement utiliser ce savoir, intégrer une partie de ces pratiques dans notre pratique à nous.
Vous écoutiez Vincent Girard, psychiatre, un entretien réalisé dans le cadre de la thématique Autour de Terre Commune. Prochain rendez-vous, demain, 17h10, entretien avec Sabine Fabiani, éducatrice, qui travaille à l'accueil de jour Consola Marceau, à Marseille. Toutes les émissions et rendez-vous Autour de Terre Commune sont à retrouver sur radiogrenouille.com.